Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous d'Alter Echo, Olivier au micro et Nathalie à la technique. Alter Echo, je vous le rappelle, c'est tous les mercredis soirs à 22h et c'est rediffusé tous les vendredis à 14h. Vous pouvez retrouver également l'émission en reel audio sur Internet, sur le site d'Alter Echo, www.multimania.com/alterecho en un mot. Vous trouverez le site web aussi à partir du site de Radio Campus et vous trouverez sur le site les archives de l'émission, les playlists de chaque émission et quelques liens supplémentaires qui se trouvent dans les textes de l'émission. Cette semaine encore, nous allons décortiquer le discours médiatique en Belgique francophone. Nous allons parler longuement des troubles entre Israéliens et Palestiniens, de la mort d'un réfugié albanais dans un centre fermé pour sans-papiers chez nous en Belgique. Et enfin, pour la première fois dans cette émission, nous accueillerons des invités. Il s'agit de Helmut, Robert et Martin, trois Autrichiens qui représentent des médias indépendants autrichiens et qui viendront nous expliquer les problèmes qu'ils rencontrent dans leur pays et également ce qui les amène à Bruxelles et au Parlement européen en particulier. Le grand sujet d'actualité qui a dominé toute la semaine, c'est bien évidemment l'évolution des violences en Israël et en Palestine suite au lynchage des soldats israéliens, dont on ne sait d'ailleurs toujours pas s'ils étaient deux ou trois, tant les circonstances de ce lynchage sont restées floues. Les Palestiniens ont affirmé qu'il s'agissait d'infiltrants déguisés en arabes et chargés des basses besognes de l'armée israélienne. Pour les Israéliens, c'était au contraire des réservistes en uniforme qui rejoignaient tranquillement leur campement et qui se sont perdus. Il semblerait finalement que ce sont les Israéliens qui ont raison, mais peu importe. Il était évident que seuls face à une foule déchaînée, leur sort était joué d'avance, quelle que soit la raison de leur présence au mauvais endroit, au mauvais moment. Bref, ce lynchage a eu un retentissement énorme, et ce pour deux raisons. Premièrement, les victimes étaient israéliennes et les bourreaux palestiniens. Pour une fois que les positions sont inversées, forcément, ça se remarque plus, surtout que les Israéliens disposent des outils de propagande pour battre leur appel si le besoin s'en fait sentir. Mais la raison principale de cet intamarre est évidemment le fait qu'une équipe de télévision se trouvait sur place et qu'elle a filmé toute la scène. Les images qu'on a pu voir sur nos chaînes de télévision ont beau être extrêmement choquantes, elles étaient montées de façon à épargner à nos yeux sensibles les scènes les plus riches en hémoglobine. De toute façon, on imagine bien qu'un lâchage n'est pas une partie de plaisir et les images qu'ont montrées les télévisions suffisaient amplement à l'illustrer. Ce qui a choqué tout autant que le sort des malheureux soldats, c'est l'attitude de la foule, assoiffée de sang, ravie de leur faire la peau, bref, cruelle et bestiale. Ces images étaient si fortes que les Israéliens ont estimé que la mort de deux ou trois personnes justifiait une vague d'attaques de missiles sur divers bâtiments officiels palestiniens. Ces attaques ont été ressenties à juste titre comme une déclaration de guerre, alors que d'après Israël, elles étaient symboliques et limitées. Le jour où ils se mettront vraiment à faire la guerre, je ne voudrais pas être dans les parages. Donc, le monde entier a vu la cruauté, le diabolisme des Palestiniens, et l'étalage de cette violence a servi à justifier non seulement de nouvelles violences, bien plus amples, mais aussi des commentaires déchaînés du côté israélien. Voici relevé par Le Soir ce qu'écrivait le lendemain du lynchage un grand éditorialiste israélien. Hier, nous avons vu des créatures habillées en êtres humains, des animaux à deux jambes. Le fossé culturel et psychologique est devenu hier une faille profonde et peut-être éternelle. Dans le même article du Soir est cité un passage d'un édito de la page web du Fatah, le mouvement de Yasser Arafat. Même si les deux agents israéliens, est-il écrit, étaient ce qu'ils semblaient être, le lynchage est inacceptable. Cela nous fait descendre littéralement au niveau des oppresseurs de notre peuple et c'est une honte. Le mot littéralement ne se trouve d'ailleurs pas là par hasard. En effet, quelques jours avant cet épisode sanglant, j'ai lu dans la presse belge un petit passage de deux ou trois lignes qui constitue la principale leçon de toute cette affaire. En deux ou trois lignes donc, on y relatait un incident survenu, je pense, dans les environs de Nazareth. Une bande de colons juifs était tombée par hasard sur deux Palestiniens qui n'avaient, selon eux, rien à faire à cet endroit. Tout de suite, cette bande de pieux cultivateurs et de bons pères de famille s'est jetée sur ces deux animaux à deux jambes et ils les ont lâchés avant de brûler leur corps. En clair, il s'est passé trait pour trait la même chose qu'à Ramallah, à deux différences près. En clair, les bourreaux étaient israéliens et les victimes palestiniennes. Et ça, on en a tellement l'habitude qu'on n'en parle plus aux infos et à peine dans le journal. Et puis surtout, il n'y avait pas de caméra dans les environs et le pouvoir de l'image, hein, on n'a jamais fait mieux. Tous les journalistes qui couvrent les troubles au Proche-Orient sont au courant de cet épisode, mais j'ai eu beau lire la presse cette semaine, personne n'a rappelé que le grand lynchage médiatisé de Ramallah n'était qu'une réplique de ce qui s'était passé de l'autre côté quelques jours avant. Pour une fois qu'ils pouvaient légitimement renvoyer dos à dos les deux camps, comme certains ont l'habitude de le faire, les commentateurs se sont bizarrement abstenus. En tout cas, tout ça souligne une fois de plus l'impitoyable pouvoir de l'image dans l'information et la mémoire sélective de ceux qui nous informent. La seule petite phrase qui souligne en passant l'impact purement médiatique de ce lynchage se trouve cette semaine sous la plume de Renée-Anne Guther, la correspondante de La Libre Belgique à Jérusalem. Pour elle, la colère palestinienne est causée par l'importance donnée dans les médias et l'opinion internationale au lynchage des soldats israéliens, alors que les Palestiniens comptent déjà près de 100 morts.
So many words have been spoken which you didn't understand and so couldn't believe. And the song which you're humming is yesterday's tune. Someone who you love is leaving you. You walked in sunshine by the sea with girls crying over. The skies are cloudy, and the love that you had is dead, and the water recedes from the falling.
Comme nous le constations déjà la semaine dernière, la presse belge reste en général extrêmement prudente, pour ne pas dire frileuse, dans son approche du problème du Proche-Orient. Souvent, les articles factuels contiennent une analyse implicite, mais il est très rare qu'on trouve une vraie prise de position dans un éditorial, alors que c'est quand même à ça qu'est censé servir un édito. On le constate très bien, par exemple, dans La Libre Belgique du vendredi 13, le lendemain du lynchage. En page 2, on trouve un rappel de toute la chronologie des troubles depuis 2 semaines. Tout commence par la visite d'Ariel Sharon à l'esplanade des mosquées. Tout le monde s'accorde d'ailleurs aujourd'hui à y voir l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, mais personne ne semble très choqué lorsque les Israéliens rendent les Palestiniens responsables des violences. Enfin bref, la chronologie de La Libre Belgique montre bien quel est le rapport de force. Ça commence donc par l'étincelle de Sharon et c'est suivi d'une litanie d'émeutes et de morts palestiniens. Entre deux bilans, on trouve les échanges entre chefs, Arafat qui demande une commission d'enquête, Barak qui refuse tout net et qui rend Arafat responsable des violences, tout ça pendant que les morts palestiniens s'entassent. Une phrase rigolote en fin de chronologie, Monsieur Barak donne 48 heures à Monsieur Arafat pour mettre fin à la violence, faute de quoi l'armée israélienne le fera par tous les moyens. Cette phrase implique donc que toute violence est palestinienne et que si l'armée israélienne sort les grands moyens, c'est-à-dire redouble de violence, c'est justement pour mettre fin à la violence. Subtile rhétorique israélienne. En page 3, même alignement de faits et de chiffres qui en dit très long, sous le titre Face à face inégale, ce sont les forces militaires qui sont passées en revue de part et d'autre. Juste pour citer quelques chiffres, les Israéliens disposent de 600 000 hommes contre 35 000 de l'autre côté. Ils ont des milliers de chars et de blindés, presque 500 avions de chasse, 130 hélicos, 50 navires et une centaine d'ogives nucléaires. En face, des armes légères, des véhicules de transport et deux hélicoptères de transport, eux aussi. Ce rapport de force, tout le monde le connaît, ou du moins l'imagine, mais la Libre Belgique tenait à le rappeler, tout comme la chronologie des faits, comme pour montrer subtilement que quand même, c'est pas juste. Par conséquent, on est d'autant plus étonné de lire l'édito du même jour. Gérald Papy, déjà champion du ni oui ni non dans son article d'analyse du même jour, fait dans son édito l'éloge funèbre du processus de paix et il exprime son espoir de le voir renaître dans un avenir meilleur porté par des hommes nouveaux. En attendant, les séquelles de la violence sont profondes et, conclut-il, il faudra laisser beaucoup de temps au temps pour qu'elles guérissent. Laisser du temps au temps, vraiment, quel punch renversant! Papy réussit même à retracer le processus de paix sans rappeler que ce dernier était complètement à l'arrêt depuis l'arrivée de Netanyahou et que Barak n'a jamais eu la volonté ou la force de le raviver, élément qui explique pourtant la violence et la haine. Non, franchement, la Libre devrait prendre exemple sur le soir. Eux, au moins, quand ils ne trouvent rien à dire, ils ne font pas d'édito. Justement, sur ce coup-là, Le Soir s'en tire un peu mieux. Dans son édito du même jour, Baudouin Loz pose la question qui s'impose par rapport au lynchage. La répulsion qu'inspire cette scène, écrit-il, oblige à se demander pourquoi et comment des Palestiniens peuvent en arriver à ce genre d'expression suprême de la haine. Il retrace lui aussi le déroulement du processus de paix en prenant toutefois bien soin de faire comprendre comment l'humiliation a pu être ressentie du côté palestinien pendant tout ce temps. Il prend bien soin aussi de ne pas trop égratigner les Israéliens, sauf lorsqu'il parle de la situation des Arabes qui vivent en Israël même. Là, il met en garde contre le risque des pires dérives racistes au sein de l'opinion israélienne. Un qui n'a pas peur des mots, par contre, c'est Le Matin. Pour Alain Arinx, Barak est une méprise. On attendait un homme d'État alors que le petit général n'est qu'un politicien malhabile. Pour Alain Arinx, Barak était prêt à faire la paix pour peu qu'elle consiste à donner des peanuts à ses adversaires. Et puisque ça ne marche pas, il utilise la violence d'État pour tenter de sauver sa carrière politique en s'alliant avec la droite extrême. Voilà qui est clairement énoncé. Je vous le disais tout à l'heure, une image en dit plus qu'une longue explication et Le Matin l'a bien compris. Le samedi 14, il publie une carte des territoires que certains appellent déjà palestiniens. Sur cette carte, il y a une petite étoile de David par implantation juive. C'est là qu'on comprend que ces territoires sont très loin d'être palestiniens, en fait. Si avec un peu d'imagination, on peut voir dans la Cisjordanie un visage humain et dans chaque colonie juive un bouton d'acné, la situation est très grave. Il y en a même dans les cheveux. En gros, la Cisjordanie est constellée jusque dans ses recoins de colonies juives. À Gaza, ce n'est pas mal non plus, mais là, c'est dans Le Soir qu'il faut aller regarder pour prendre toute la mesure de l'horreur imposée aux Palestiniens. Serge Dumont, envoyé spécial du Soir à Gaza, a rassemblé des chiffres hallucinants. Déjà, Gaza, ce n'est pas grand. 30% du territoire sont occupés par 5 000 colons juifs. 10% sont inoccupés, c'est une zone tampon entre Gaza et Israël, parce qu'avec ces animaux de Palestiniens, on ne sait jamais. Reste donc 60%, soit 300 km², environ un centième de la Belgique. Sur cette petite surface s'entassent 1 200 000 Palestiniens. Ils n'ont même pas le droit de circuler librement et ils manquent d'eau, parce que les colons pompent à eux seuls 2/3 de la consommation d'eau à Gaza pour arroser leurs bégonias. Voilà des chiffres qui en disent presque aussi long qu'une image. Donc, Le Soir peut à la fois révéler des choses pareilles et continuer à parler d'Israël comme d'un pays respectable. Pourtant, on en a connu qui se font sont fait traiter de dictature pour moins que ça. Thank you. Beaucoup d'analyses politiques aussi sur ces événements dans la presse de cette semaine, et notamment sur la responsabilité des violences. On lit dans la bouche des protagonistes des déclarations parfois incongrues et contradictoires qui ne sont pas toujours relevées par les journalistes. Ainsi, on apprend dans le soir qu'un rapport israélien reproche aux forces de l'ordre d'avoir immédiatement tiré à balles réelles sur les manifestants, et même que Barak reconnaît que cette attitude a pesé dans l'embrasement des territoires. Quelques lignes plus bas, Barak accuse l'autorité palestinienne de porter une lourde responsabilité dans les violences. De même, la responsabilité des Palestiniens paraît évidente aux Israéliens, mais ils refusent en bloc une commission d'enquête sur l'enchaînement des événements. Ils ont finalement été forcés d'en accepter le principe, mais elle sera menée sous l'égide des États-Unis, ce qui laisse tout de même une grande marge de manœuvre. Justement, parlons-en des États-Unis. On connaît leur rôle d'allié traditionnel et indéfectible d'Israël. Toujours dans le soir, un diplomate américain, spécialiste du Proche-Orient, confie: Nous avons toujours vendu le dernier modèle d'armement aux Israéliens et le modèle en dessous aux Égyptiens. C'est triste, mais c'est comme ça. Après ça, qui peut encore croire que les États-Unis ont réellement intérêt à ce que la tension s'apaise dans la région? Dans La Libre Belgique, Gérald Papy se montre aussi prudent envers les Américains qu'envers les Israéliens. Il parle du climat délétère qui préside aux relations entre Israéliens et Palestiniens et écrit très prudemment: Les facilitateurs du dialogue sont désormais perçus comme partiaux, les États-Unis sont jugés pro-israéliens. Tout cela est donc du domaine de la perception et du jugement. Ironiquement, juste en dessous de cet article, il y en a un autre sur la perception du conflit aux États-Unis. On y apprend que les éditorialistes incendient Clinton pour ne pas avoir opposé son veto à la résolution des Nations Unies qui condamnait la semaine dernière la violence israélienne contre les Palestiniens, et que l'opinion est scandalisée par le fait qu'Arafat ne stoppe pas immédiatement les émeutes. En privé et anonymement, apprend-on toujours dans le même article, les experts avouent qu'Arafat n'a pas un interrupteur pour allumer ou éteindre les émeutes, mais dans l'arène officielle, les politiciens appellent le même Arafat à stopper la violence de toute urgence et ils rappellent leur attachement indéfectible à Israël. On a même pu apercevoir Hillary Clinton, en campagne électorale pour un siège au Sénat, haranguer la foule à une manifestation de soutien et de solidarité au peuple durement éprouvé d'Israël et non de la Palestine, comme on aurait pu le croire. Mais donc, les États-Unis sont jugés pro-israéliens. La Libre Belgique ne devra pas s'étonner après ça d'être à son tour jugée poule mouillée. Le terme exact pour la position des États-Unis dans cette affaire est celui de Robert Falloni dans Le Matin, qui qualifie les États-Unis de faux arbitres paralysés par la campagne présidentielle. Il ne se trouve bizarrement aucun commentateur pour désigner le vrai vainqueur politique de ces deux dernières semaines au Proche-Orient. J'ai nommé Ariel Sharon. Ce qui s'est passé apparemment, même si personne ne le souligne, c'est que Barack est allé un pont trop loin à son goût. Dans les jours qui ont précédé le 28 septembre, jour de la visite fatidique de Sharon sur l'esplanade des mosquées, Ehud Barak avait évoqué la possibilité de laisser, de façon restreinte et sous condition, une souveraineté partielle sur Jérusalem-Est aux Palestiniens. Ça, Sharon ne l'a pas supporté et, jugeant le moment propice, il a donc lancé sa provocation le 28. Et propice, le moment l'était. Les États-Unis sont aux abonnés absents ou à peu près pour cause de campagne électorale. En plus, les candidats se disputent pour savoir lequel des deux sera le meilleur ami d'Israël. En Israël, la position de Barak est des plus faibles, et même chose pour Arafat, qui a du mal à justifier que le processus de paix n'ait pas bougé d'un pouce depuis plusieurs années. 3 semaines plus tard, on s'aperçoit que Sharon a finalement gagné sur tous les tableaux. Barak est affaibli au point de menacer son pays d'un gouvernement d'urgence qui inclurait Sharon, l'homme par qui tout est arrivé. Cela montre d'ailleurs combien la position de Barak est précaire. Sharon a provoqué à l'extérieur pour des raisons de politique intérieure et Barak s'est retrouvé contraint d'entrer dans sa spirale de violence et de faire alliance avec l'instigateur même de ces violences. Même s'il semble aujourd'hui que cette alliance n'était qu'une menace de Barak pour faire venir Arafat au sommet de Sharm el-Sheikh, cela présente Sharon comme un partenaire gouvernemental crédible, lui qui pour beaucoup d'Israéliens n'était plus que le boucher de Sabra et Shatila. Il en sort donc personnellement renforcé. Il y a eu le lynchage aussi qui a convaincu bon nombre d'Israéliens du fait que les Palestiniens ne sont plus des partenaires sérieux pour une paix durable, ce que Sharon se tue à leur dire depuis Oslo. De ce côté-là, les dégâts seront durables et c'est la plus grande victoire de Sharon. Beaucoup de commentateurs notent en effet que la gauche et même l'extrême gauche israélienne ne sait plus comment défendre ceux qui étaient encore leurs partenaires quelques jours auparavant. On l'a constaté aussi d'après les commentaires des grands représentants du camp de la paix qui semblent avoir retourné leur veste, Shimon Peres notamment, qui se demandait d'un air éploré à la BBC Pourquoi les Palestiniens jetaient des pierres sur les Israéliens? Il y a aussi l'écrivain Amos Oz qui estimait cette semaine dans The Morgan que c'est la rhétorique de la presse et des intellectuels palestiniens qui sont dans la poche d'Arafat qui ont mené au lynchage de Ramallah. Il oublie d'expliquer pourquoi lui-même a tant hâte de plonger dans la poche de Sharon qu'il ne doit pourtant pas porter dans son cœur. On le voit donc, contre l'émotion et l'idéologie, l'information correcte est un remède rare mais efficace. La correspondante de la Libre Belgique en Israël le signale d'ailleurs. Elle a interrogé à Haïfa un jeune Belge qui travaille dans un centre de jeunes judéo-palestiniens au rapprochement entre les deux peuples. Ce qu'il a appris lors de ces récents événements, dit-il, c'est combien les médias sont importants et combien il est difficile d'avoir des informations correctes. A fortiori, comment en avoir en Belgique? Pour cela, heureusement, il y a la fée Internet. Évidemment, on ne peut jamais être sûr d'une information parfaite, qui est d'ailleurs un concept illusoire, mais il y a moyen sur Internet de trouver des sites de contre-information sur ce conflit. Il s'agit premièrement de sites israéliens indépendants, comme le centre Indymedia Israël. Il y a également des sites palestiniens. L'objectivité n'y est évidemment pas garantie, mais elle ne l'est pas plus dans nos médias et ça fait un contrepoids agréable. Enfin, il existe des sites d'information gérés conjointement par des Israéliens et des Palestiniens qui croient encore, eux, en la coexistence et qui montent ensemble des projets de contre-information. Vous trouverez les adresses de quelques-uns de ces sites sur les pages web d'Alter Echo. Pour terminer, j'aimerais décerner sans aucune ironie la palme de la semaine à Françoise Berlaimont, l'envoyée spéciale de la RTBF, qui a parfaitement résumé ce lundi dans Matin Première la situation qui prévaut en Israël et dans les territoires. En moins de 2 minutes, elle est parvenue à camper tous les aspects de la situation, prouvant en même temps qu'un journaliste peut parfaitement avoir des opinions tout en restant objectif. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par Africa Gordillo, qui lui demande quelles sont les raisons de la colère des Palestiniens.
L'étincelle, c'est la visite d'Ariel Sharon, le leader du Likoud, le 31 septembre, sur l'esplanade des mosquées. Mais ça, c'est l'étincelle, parce qu'en fait, ce qu'on appelle les droits de l'homme, c'est-à-dire ce qui est élémentaire pour vous, pour moi, se déplacer, choisir une école, créer une entreprise, voyager, travailler, tout cela est refusé aux Palestiniens. Israël enferme, asservit environ 4,5 millions de personnes qui vivent dans des territoires minuscules, morcelés, des territoires entourés de colonies juives, des colonies hyper protégées par l'armée. C'est là que se déroulent les affrontements. Les colons attaquent régulièrement les civils palestiniens, des attaques qui restent impunies. Et bien de tout cela, les Palestiniens sont à bout. Ça fait quand même une quarantaine d'années que ça dure. Le processus d'Oslo devait leur apporter le changement et rien ne s'est passé. Vous savez, la situation des Palestiniens est unique au monde. Dans l'histoire, aucune nation n'a subi de façon aussi continue l'oppression d'une autre nation, sauf peut-être, et dans un autre contexte, les Kurdes.
Les Israéliens, eux, comment réagissent-ils aujourd'hui?
Les Israéliens, ils font bloc de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il n'y a pas vraiment de voix qui s'élève pour dénoncer l'attitude de l'armée israélienne. Une armée qui fait quand même des cartons, c'est le mot, sur des civils palestiniens, sur des enfants. Les Israéliens sont obsédés par leur sécurité, ils se sentent menacés en permanence alors que la force vient de leur côté et la violence aussi quand même. Tout cela intervient aussi, il faut le dire, dans un contexte politique israélien très précis. Ehud Barak, le premier ministre israélien qui a été élu pour achever le processus de paix, est en difficulté depuis l'échec de Camp David. On parle maintenant d'un gouvernement d'union nationale avec le Likoud. Le Likoud, c'est Ariel Sharon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin de tout espoir de paix. Ça veut dire que de nouvelles explosions de violence sont vraiment à craindre. Les Palestiniens n'ont plus rien à perdre. L'un d'eux m'a dit, et c'est pas du tout un extrémiste, vaut mieux mourir que de vivre comme cela.
Pour vraiment clore le sujet, je ne résiste pas à l'envie de vous décrire le dessin qui se trouvait jeudi dernier en couverture de Charlie Hebdo. C'est un dessin de Kabu sur lequel on voit s'entretuer un soldat israélien et un lanceur de pierres palestinien. Au-dessus, Kabu a écrit en grand « Arrêtez tout, Dieu n'existe pas ».
Child clean on Buckingham Green. The children saw the eye as a sign from God descending from the sky. It was all right to dream of Buckingham Green.
pas besoin de traverser la Méditerranée pour trouver de la tragédie et de l'oppression. Jeudi dernier, tout près de Bruxelles, un jeune Albanais est mort en tentant de s'évader du centre fermé pour sans-papiers de Stenokersel, le fameux 127 bis. Les circonstances de cette tentative d'évasion et de ce décès sont fort troubles et ça pue le mensonge à plein nez du côté des autorités. Juste un exemple, Ferik Sevdet, le réfugié en question, devait se faire expulser le lendemain de sa tentative d'évasion. Selon Antoine Duquesne, le ministre de l'Intérieur, il était volontaire pour partir. Sans doute aura-t-il brutalement changé d'avis. Pour le reste, Antoine Duquesne se retranche derrière l'enquête en cours. Il ne fera aucun commentaire tant que l'enquête n'aura pas fait la lumière sur cette affaire. Dès le lendemain, plusieurs députés se sont rendus sur place pour se rendre compte de la situation. La télévision a évidemment relaté cette visite, mais à comparer les reportages de la RTBF et de la VRT, les francophones ont dû rester quelque peu sur leur faim. Ce n'est pas que Philippe Carlot ait mal fait son boulot à la RTBF, c'est tout simplement que le cadre du JT ne lui a pas laissé le temps de le faire complètement. En une minute et demie, pas moyen de dépasser le stade des simples faits. À la VRT par contre, avec 5 journaux télévisés par jour, plus une demi-heure quotidienne d'actualité approfondie, on a le temps de laisser la parole aux intervenants. C'est donc l'émission Terzak qu'il fallait regarder vendredi soir, et pour ceux qui n'en ont pas eu l'occasion, j'ai fait un petit digeste des interventions des députés. D'abord Vincent de Crolly, puis Georges d'Allemagne, puis à nouveau Vincent de Crolly.
Ce système-là, il évoque ce qui s'est passé dans les années 30. Ce système-là, il préfigure des choses qui pourraient être beaucoup plus graves. Et nous avons déjà des morts liées à cela. Il faut en tirer toutes les conséquences tant qu'il en est encore temps.
On a recueilli les témoignages à la fois du personnel du centre, les témoignages des personnes qui s'étaient échappées. Effectivement, une des choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne s'explique pas, c'est que cette personne qui est morte aujourd'hui, eh bien, elle gisait, elle demandait à l'aide, ses compagnons sont revenus au centre, donc ils s'étaient rendus en quelque sorte, et que effectivement, le premier geste n'a pas été d'appeler une ambulance, de lui prodiguer des secours, mais de lui passer une menotte et de l'embarquer dans un combi. Et donc cette personne, visiblement, d'après l'ensemble des informations qu'on a pu recueillir, est morte de problèmes hémodynamiques graves, probablement d'une hémorragie interne. L'autopsie devra évidemment le confirmer. Mais il y a eu une heure et demie qui s'est passée et qui était probablement, pendant laquelle on aurait dû, bien évidemment, appeler une ambulance, d'après d'ailleurs le témoignage même du gardien qui est arrivé le premier sur les lieux et qui lui-même n'a pas osé bouger cette personne, se blesser, parce qu'il considérait d'emblée que cette personne était dans un état extrêmement grave.
Le premier réflexe, ça a été de passer une menotte, et la deuxième chose, ça a été de bouger la personne, ce qui, du point de vue médical, est déjà extrêmement risqué. Et le troisième problème que nous avons noté, c'est que d'après des témoignages de personnes évadées, on a traîné Xevdet sur le sol à l'entrée ici du centre, jusque dans la cellule où on a tenté par la suite de le réanimer. Il y a quelque chose là qui évoque quand même une manière tout à fait inhumaine, dure, cynique, de traiter quelqu'un qui était à ce moment-là en état de reddition, qui n'était plus un évadé, qui en plus était relativement gravement blessé, et même si on ne pouvait pas voir clairement où était la blessure ni de quoi il souffrait. Nous demandons au ministre de l'Intérieur qu'il y ait une enquête sérieuse. Et une enquête sérieuse, ça n'est pas une enquête qui est confiée à la gendarmerie pour étudier comment se sont comportés des gendarmes. Parce que ça, on nous l'a fait avec Semira Adamou en 98, on nous l'a fait avec Mathieu Selou, ce Sierra Léonais qui a été blessé à la tête en 99. Dans tous les cas, la gendarmerie, quand elle enquête sur la gendarmerie, conclut que ce n'est pas la faute de la gendarmerie. Il ne faut plus qu'on nous fasse ce coup-là.
Donc récapitulons, 9 personnes tentent une évasion. L'une d'entre elles fait une mauvaise chute à tel point que certains de ses compagnons d'évasion retournent chercher de l'aide et renoncent donc à se faire la malle. Le type ne devait pas aller très bien. Le gardien arrive et juge le blessé intransportable. Pourtant, d'après Antoine Duquesne, qui devait sans doute se trouver sur les lieux, il ne semblait pas grièvement blessé. Arrivent les gendarmes qui menottent le blessé, le traînent par un pied pour le déplacer, selon certains témoignages, et l'emmènent en cellule d'isolement. Là, très vite, son état de santé se dégrade et on tente une réanimation, mais trop tard, évidemment, il meurt. Même certains membres du personnel du centre fermé se sont plaints de l'attitude de la gendarmerie, tant à leur propre égard qu'envers les détenus. Mais Duquesne ne veut pas se substituer au juge d'instruction et il attend les résultats de l'autopsie et de l'enquête. Étrange autopsie, justement, elle ne révèle aucune anomalie qui aurait pu causer la mort, ni fracture, ni lésion interne ou externe, ni trace de chute. Seul le soir croit savoir qu'il s'agit en fait d'une autopsie externe et que l'autopsie interne doit encore être pratiquée. Près d'une semaine après les faits, on attend toujours. Duquesne, lui, sur base de ses premières constatations, estime le décès accidentel et ne reproche rien à personne. Mais cessons donc de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas et de nous substituer au juge d'instruction. L'affaire suit son cours, ayons confiance.
Contrôleurs de bouge, les cow-boys solitaires en cité flétrie, bouffés par les viscères en chevaux blanchis. À la ligne orange, ils sont nos gardiens comme d'autres ont les anges. Ils sont là pour aider la traversée des rues. Ils sont fatigués dans la sale cohue. Ils n'ont peur de rien, ils arrivent à temps. Le monde est pas propre et c'est pas évident. Gendarmerie blues. La loi et leur foi, le service rendu. Ils pleurent souvent quand les chiens sont perdus. Le sexe, la violence, la mort, la folie. Leur lot quotidien leur est mal servi. Gendarmerie blues. Ils sont ivres de l'homme et de sa faiblesse. Conduite et gueulade en état d'ivresse. Maintenant tout est bien, on est rassuré. Ils sont les plus forts, virils et armés. Victimes du racisme, des hommes arrêtés. Victimes de la mort, bavure contre réglée. Ils aiment la jeunesse qui aime bien châtie. Ils protègent les arabes et s'en font des amis. Gendarmerie bleue. Ils sont bien trop peu et sont mal payés. Mais quand c'est la passion, c'est se sacrifier. Mais c'est ça la vie et c'est la tristesse. De tourner en carrousel sans rire dans les kermesses. Gendarmerie blues. En voix. C'est vrai que c'est dur d'être flic ou gendarme, mais ils ont du prestige auprès des belles femmes. Les putes, les vieilles dames, les junks, les voleuses. Ils sont là pour qu'elles soient plus heureuses. Ils seront à la mort, à la droite de Dieu, avec les Mongols. Les pauvres, les lépreux, car Dieu guérit toutes les maladies des hommes. Et efface la connerie d'un grand coup de gomme.
J'écris ça pour eux qui en toute justice savent faire parler sans faire de cicatrices. Elles peuvent foutre en tôle avec gentillesse et faire chier mes frères le sourire aux fesses. Et faire chier mes frères le sourire aux fesses. Et faire chier mes frères le sourire aux fesses. Et faire chier mes frères le sourire aux fesses. Tu lui veux vous ne m'a pas. On va me vous bambam. Bébé bébé bouté bon, bébé moudi bou pas pour moi. Bari pan, bébé pan, bébé pan.
Voilà, alors comme je vous l'annonçais en début d'émission, j'ai ici en studio avec moi les premiers invités de l'histoire d'Alter Echo. Ce sont trois Autrichiens, il y a Helmut, Robert et Martin, ou qu'on va appeler Martin pour faciliter les choses. Vous êtes des représentants d'une association informelle de médias indépendants. Vous venez d'Autriche, l'Autriche ça nous dit quelque chose. Il y a eu une prise de pouvoir, il me semble, en début d'année avec des gens qui sont plutôt à droite. Expliquez-moi ce qui vous amène à Bruxelles, justement, par rapport à cette prise de pouvoir.
Oui, bonsoir. D'abord, merci pour nous avoir invités ici à Radio Campus.
C'est un plaisir pour moi.
C'est aussi la première fois qu'on est à l'antenne à Bruxelles et en Belgique.
Bienvenue.
Comme tu as déjà dit, il y a la raison pour notre visite à Bruxelles, c'est d'informer en fait au Parlement européen, surtout des députés intéressés, mais aussi d'autres personnes, des journalistes, des initiatives intéressées sur la situation politique en Autriche et surtout aussi sur les conséquences que la situation a sur la liberté de l'expression. Parce qu'on peut dire, ça fait beaucoup de vagues, je crois aussi dans la presse internationale, qu'en Autriche, on a un gouvernement, coalition entre les conservateurs et la partie populiste qui va vers l'extrême droite plutôt de Haider, qui fait
Toi-même, tu ne le
une.
qualifies pas tout simplement d'extrême droite, c'est mitigé.
Il y a des éléments, comme on dit, même maintenant dans les rapports de droit
Sage.
sage, non, qu'il y a des éléments d'extrême droite, mais c'est sûr qu'il n'y a pas tout d'extrême droite. Il y a plusieurs camps où il joue avec, ça veut dire lui est surtout maintenant populiste, mais lui a un très fort
Passé.
passé à l'extrême droite et lui vient clairement d'une famille nazie. Ça c'est son histoire, de Haider personnel, il est parti aussi. Et peut-être aussi tout de suite pour expliquer son très fort développement des dernières années, il a fait sa carrière en Carinthie, c'est la région d'où vient moi. Ça, cette fois-ci comme représentant d'une radio bilingue là, qui émet allemand, slovène, ça veut dire aussi pour la minorité slovène. Et lui a
Donc, je
fait.
rappelle que la Carinthie a une frontière commune avec la Slovénie et qu'il y a une
Voilà,
forte
c'est nous
minorité.
on est
Quelle est
la
la
région
proportion de
franc.
minorité de la minorité
Comment?
slovène? La
La
proportion de la minorité slovène en Carinthie?
bon, c'est très difficile à dire parce qu'il y a une très forte pression d'assimilation, ça veut dire début du siècle, il y avait peut-être 100 000 personnes qui parlent slovène, maintenant on parle de 15 000, 20 000
Et il n'y a pas une
qui sont.
immigration slovène en Autriche?
Non, c'est pas une question d'immigration, c'est une vieille minorité. C'est des gens qui habitaient depuis des générations là-bas. Comme on dit maintenant, autochtones dans la diction chez nous. Mais c'est. Lui a bien fait sa carrière là-bas parce qu'il y avait les tensions qui ont été toujours bien soutenues comment on dit, il y avait une fonction, une très forte nationalisme allemand en Carinthie qui était toujours visé contre les Slovènes. Et c'était aussi notre région qui était à l'époque des Anschluss.
Oui, donc
Nazis,
quand
la
l'Autriche a
région
rejoint
où il y
l'Allemagne
avait le
nazie en
plus
38.
de nazis illégaux déjà. C'est-à-dire, et c'était une très fertile.
Le nazisme a un terreau
Voilà.
naturel en Carinthie, quoi. Et donc en
C'est.
fait, Haider n'est pas originaire de Carinthie, mais il est
Pas
venu
du
faire sa
tout.
carrière politique
Il a
là-bas.
fait sa carrière là-bas parce que c'était le meilleur terrain. C'est-à-dire, c'est ses. Comment on dit? Son Tifa, son. Soit son père politique lui a appelé de venir en Carinthie parce que là c'est son terrain. Et là il y a commencé et en fait notre radio est très 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 attachée à sa carrière parce qu'on a essayé dans 89 quand il a fait son première grande campagne électorale avec succès en plus, il est
C'est
devenu
en
chef
89
Hollande.
qu'il a été élu, oui.
On a fondé la radio pour donner une voix à ceux qui essayaient à faire une liste bilingue et qui avaient nul accès aux médias. Et ça, c'est le point maintenant pour expliquer un peu la situation des médias en Autriche en général. C'est très, très pauvre. Ça veut dire, question presse écrite en Autriche, on a deux grands journaux, deux quotidiens qui couvrent 70% des lecteurs qui sont en plus dans le même groupe. Même entreprise. Et après, bon, il y en a encore une dizaine, mais qui sont beaucoup moins importants, en ce mot, plutôt régional. Et en plus, ils sont presque tous presse boulevard. Après, il y avait le radio et télévision d'État, qui est le OAF, qui était, bon, jusqu'à maintenant, une radio, moi, pour une partie, aussi la télé. Assez informatif, assez correct, bon, démocratique, on ne peut
Jusqu'à
pas dire
maintenant,
dans
ça veut
cette.
dire que ça a changé au moment de la prise de
Oui,
pouvoir par
voilà.
Haider?
Et maintenant, même cette grande institution, OAF, est complètement sous pression de ce nouvel gouvernement parce qu'on essaie complètement de faire pression sur les journalistes, sur les rédactions entières, contre les journalistes et contre les émissions critiques.
Oui, et donc il y en avait quand même, mais ils subissent des pressions.
Avant,
Quelle forme prennent ces pressions?
cette pression, ça commence par une menace systématique de porter plainte contre certains journalistes. Ça se passe aussi très directement par des appels téléphoniques. Par exemple, maintenant, la semaine prochaine, il y avait une résolution de toute l'équipe des rédacteurs de l'OAF. Je veux dire, ils ont cité, par exemple, qu'il y avait une journée, il y avait 20 coups de téléphone une représentante du parti de Haïda, qui est chef de la délégation au Parlement, Monsieur Westenthaler, et ça c'est quand même pas mal. Après, il y avait, par exemple, une chercheuse, on dit, chercheuse,
Une chercheuse.
Madame Avodak, elle travaille sur la linguistique. Elle a fait une recherche sur le langage raciste dans les différents parlements européens. Elle a dû faire une émission. Et c'était aboli cette émission parce qu'elle insistait qu'il faut citer les politiciens. Et là, déjà, c'est la autocensure déjà qui marche parce que les rédacteurs ils disent, si je fais ça, le lendemain, je
Donc, elle
suis
n'a pas
plus
été
là.
censurée directement par le
Non.
pouvoir, c'est au sein de la chaîne même
Voilà.
qu'on a dit pas question qu'on le fasse.
Voilà. Et ça, c'était tout de suite après le changement de pouvoir, en
C'est une
fait.
situation qui existe depuis plus longtemps en Carinthie, qui était régionale et qui s'est étendue au niveau national, ou bien la situation dans les médias est neuve depuis seulement le début de cette
Cette
année-ci?
situation, elle était en Carinthie, mais un peu moins les dernières années. Parce qu'elle était quand Haïda est venu au pouvoir en 89. Là, on avait vraiment la situation que le journal régional, la Kleine Zeitung, le petit journal, comment ça s'appelle en français, était vraiment le porte-parole de toutes ces tendances nationalistes. C'était toujours contre la minorité. Et quand Haïda est venu, il y avait le plus grand journal de l'Autriche. Il s'est lancé aussi en Carinthie et il a fait plus ou moins campagne électorale pour Haïda à cette époque-là. Donc ça fait un peu un changement pour les autres médias qui ont lâché un peu plus ce thème et Haïda a concentré tout ce nationalisme sur son parti. Et sur cette Kronen Zeitung, qui est vraiment le symbole en Autriche pour le plus mauvais boulevard et sur une méthode de lancer des thèmes racistes et tout ça.
Là, on parle de médias établis qui sont sans doute pour la plupart, sinon tous, des médias commerciaux. Vous venez ici représenter des médias indépendants, c'est-à-dire non commerciaux, je suppose pluralistes, etc. Qu'est-ce qui a changé pour ces médias-là? Déjà, je ne sais pas s'ils étaient bien établis auparavant, mais si quelque chose a changé au moment de la prise de pouvoir, qu'est-ce qui a changé et pourquoi est-ce que vous venez ici?
Je continue
Oui,
un peu à
vas-y.
parler sur les radios parce que
Donc, je rappelle qu'il y a Helmut qui représente les radios, il y a Robert qui représente la presse écrite alternative, les magazines, et je suppose qu'il n'y a pas de quotidien. Et on a Martine qui représente les médias des nouvelles technologies, qui nous expliquera ça tout à l'heure. Donc, Helmut pour les radios.
Donc pour les radios, il faut dire en Autriche, il y a la possibilité de faire la radio privée depuis 2 ans et demi.
Seulement depuis 2 ans et demi.
Oui,
Donc,
c'était
avant, il n'y avait que l'ORF, c'était un
avant il n'y avait que
monopole.
l'ORF. C'était un très très long combat. Il y avait 8 licences pour des radios libres, ça veut dire des radios non commerciaux, un peu comme Radio Campus, qui se trouvent dans de toutes très différentes situations. Je veux dire dans les villes, sur la campagne, nous comme radio pour la minorité, il y a encore une autre pour la minorité. Et on a commencé dans une situation où il n'y avait pas de différence dans la loi entre radio commerciale et radio non commerciale. Ça allait en début où il y avait quand même des petits soutiens du côté gouvernement pour les radios minoritaires. Pour les minorités, il y avait quand même
Des
presque une
subventions.
subvention pour tenir toute une radio en route. Pour les autres, il y avait une espèce de soutien du budget culturel, mais au moins ça donnait une petite base. C'était une base où on pensait de continuer, de lutter pour plus de soutien.
Et maintenant?
Et maintenant, depuis que le gouvernement est là, c'est clair, le plan pour cette année, on reçoit encore un peu.
après une très, très dure lutte, pour l'année prochaine, il n'y aura plus rien. Ça veut dire que c'est vraiment le coupe totale.
Et donc, s'il ne se passe rien d'ici là, toutes ces initiatives vont tout simplement mourir, disparaître.
Bon, et ça, on va pas le faciliter. Ça serait le but du gouvernement, quoi. Mais on est tous en train maintenant de lutter, de trouver d'autres solutions. Et c'est aussi une des raisons pourquoi on est ici maintenant. Ça veut dire pas seulement pas informé, mais aussi pour chercher de soutien aussi financièrement sur le niveau
Vous vous
européen.
adressez au Parlement européen et en fait c'est justement du Parlement européen qu'émanait le comité des trois sages qui a rendu un rapport qui a permis aux pays européens, à l'Union européenne de lever les sanctions contre l'Autriche. Comment est-ce que vous êtes reçu au Parlement? C'est-à-dire c'est quand même eux qui ont fait lever les sanctions et maintenant vous venez avec un bruit tout à fait contraire, vous venez dire que finalement il y avait peut-être lieu de faire ces sanctions. Comment avez-vous ressenti, vous, ces sanctions déjà au moment où elles étaient instaurées? Plutôt positif ou plutôt négatif?
En début, on a vu quand même de manière positive que c'était parce qu'on sentait qu'il y a un œil européen sur la situation en Autriche.
C'est ça, au
Ça
moins ça a
passe pas
attiré
comme ça,
l'attention,
comme
ça passait pas inaperçu. Ouais.
ça se passe pas un aperçu. Mais on a bien vu après une certaine période, et ça commence assez vite, que c'était devenu contre-productif parce qu'en Autriche, ça joue beaucoup cette carte nationaliste. Chauviniste, même où le gouvernement s'est présenté
Tout
comme
le monde se
le.
met contre nous, donc
Voilà, voilà.
défendons-nous
Ça donne un
ensemble.
réflexe. C'est comme à l'époque quand il y a notre président Waldheim qui était élu. Et.
Donc quelque part, il valait mieux lever les sanctions,
Voilà.
mais
Mais il
qu'est-ce
fallait
qu'il faut à
trouver
la
autre
place?
chose. Il fallait trouver autre chose.
Et c'est autre
Et on a
chose.
bien accepté qu'il y ait les trois sages qui ont eu ce boulot. De trouver une sortie de cette situation un peu difficile. Mais d'abord, bon, certaines choses ne sont pas écrites dans leur rapport, mais même dans leur rapport qui sont écrits, il y a encore beaucoup de critiques et beaucoup de points où il faudrait quand même garder l'attention sur l'Autriche.
C'est effectivement ce
Et
qu'ils disent, garder la vigilance sur tel et tel point,
voilà.
mais quelle forme est-ce que ça prend
Mais
concrètement?
le problème, c'est que je crois, c'est vu très différent. Parce qu'on a vu des députés qui sont bien compris ça, qui ont dit oui, c'est fini les sanctions, mais on a bien lu le rapport. Il y a des points où on peut encore demander, où on peut rester vigilant et on a une raison pour réagir. Il y en a d'autres qui ont dit mais on ne peut rien faire parce qu'il y a maintenant ce rapport-là. Ça veut dire que c'est très différent. Ça
Enfin,
dépend un
si j'ai bien
peu.
compris, c'est quand même la fraction social-démocrate autrichienne au Parlement européen qui
Oui.
vous a invité. Donc, ça fait partie de cette vigilance qu'ils essayent de garder.
Oui, c'est eux qui, je crois, ils essayent de jouer un rôle maintenant pour sauver un peu aussi notre travail. En fait, c'est. Si on dit ouvertement, c'est aussi un peu faute à eux, parce que c'est eux qui ont fait les règlements avant, avec les conservateurs, grâce à ceux qu'on a reçus nos licences. Mais il n'y a pas de différence entre radio libre, radio commerciale, et c'est aussi eux un peu la raison pourquoi le système des médias en Autriche est comme ça. Il est tellement pauvre, parce que c'était toujours leur système. Maintenant, c'est les autres qui sont la main là-dessus. Donc, ils commencent à réfléchir.
Une petite cure d'opposition,
Ouais.
ça fait jamais de tort. toi, tu représentes les radios. J'ai ici Robert qui représente la presse alternative. La presse alternative dans un paysage aussi pauvre, qu'est-ce que ça représente exactement en Autriche? C'est foisonnant ou c'est vraiment minimum?
Oui, bien sûr, la situation des médias écrits alternatifs est très mauvaise, mais ce n'est pas absolument nouveau.
Neuf.
Situation neuve. C'est un développement qui s'est déroulé pendant les derniers 10 années, je veux dire. Quelques titres très importants et. Des journaux qui ont effectué, qui ont réussi à créer un public un peu plus grand et pas tellement particularisé. Ces magazines n'existent plus à cause des problèmes de financement qu'on a toujours en Autriche actuellement.
Est-ce qu'il existe en Autriche des aides à la presse?
Il existe des aides à la presse, mais la grande plupart de cette aide est seulement au profit de quelques journaux hebdomadaires et quotidiens. Ce sont 250 millions de shillings par an et tous les magazines, pas seulement les magazines alternatifs, mais tous les magazines, il y a consacré une aide de l'État de 5 millions.
Donc on soutient l'effort et...
Ce sont 150 magazines qui en profitent, si on veut
Ils se partagent les 5 petits millions
dire comme
en
ça.
question.
Et autour de cette aide de l'État, c'est le gouvernement qui décide sur ces 5 millions de shillings. Et autour de cette aide, s'est déroulée une campagne ou plusieurs campagnes de diffamation par le, pas par le FPE, par le parti de Haider, mais par le parti conservateur.
Qui lançait des campagnes de dénigrement de ces magazines, de cette presse alternative.
Que la presse alternative est un élément d'un réseau crypto-terroriste et
On
oui,
connaît un peu les mêmes
nous
choses en
sommes
Belgique et d'ailleurs en
les
Europe partout. C'est vrai qu'on utilise facilement des grands mots pour des petits mots, MAUX, c'est clair.
le gouvernement actuel a déclaré plus ou moins clairement que le gouvernement n'est pas intéressé à l'existence d'un tel type de
Donc les
publication.
perspectives sont pas très brillantes
Oui,
apparemment.
oui.
Ok. Et j'ai donc ici de l'autre côté de la table Martine qui représente en fait à droite de la table il y a l'ancienne presse, c'est-à-dire les radios et les journaux, de choses assez figées apparemment en Autriche. Toi par contre c'est le 21e siècle. Tu représentes le consortium Netzkultur. Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi il s'agit?
Merci. D'abord, je voudrais dire bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Encore merci pour l'invitation. Moi, je représente une organisation très nouvelle et pour comprendre pourquoi on est tellement dangereux pour ce nouveau gouvernement, il faut comprendre ce qu'on fait. C'est pour ça que je voudrais bien expliquer ce qu'on fait. Consortium Netzkultur est une union des initiatives autrichiennes qui se trouve au point de jonction entre l'art, la culture et les nouvelles technologies d'information et de communication. C'est la raison qu'on peut dire qu'on est très très jeune, c'est nouveau, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on est le secteur troisième dans ce réseau de médias. Ces initiatives de culture des réseaux ont joué un rôle de pionnier très tôt, on s'exprimait de manière riche et variée l'art et la culture en combinaison avec les médias digitaux et de cette manière d'encourager et de renforcer la liberté d'expression et d'opinion dans un espace public. C'est très important. La tâche principale de notre organisation, Consortium Netzkultur, est d'élever la conscience publique pour que les réseaux électroniques se trouvent dans des contextes de société et soient de pair avec une évolution culturelle qui soit démocratique, participative et socialement équilibrée. C'est très, très.
Et si vous êtes mis ensemble comme ça pour justement assurer cette défense, c'est parce que vous ressentez une certaine menace sur cette forme d'expression?
Oui.
Clairement, avec l'arrivée aussi
Ouais,
au pouvoir.
bien
Il y a
sûr.
eu une différence dans votre secteur depuis le début de l'année?
Oui, le nouveau gouvernement n'a pas coupé l'argent, mais on est réduite. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est très, très dangereux parce qu'on a besoin d'un développement. Ouais. On peut parler d'un mec très maigre. Ouais. On est maigre, oui. Il faut grossir. Puis on cherche quelqu'un qui nous donne à manger.
D'accord, bah justement, ce sera mon avant-dernière question parce que le temps nous presse et il faudra répondre très brièvement, je suis désolé. L'avant-dernière question, c'est vous êtes ici et vous allez au Parlement européen. Vous demandez des choses très concrètes ou simplement une vigilance accrue? Est-ce que vous avez des revendications point par point?
On demande très concrètement, oui, il y a la vigilance et on cherche les possibilités dans le Parlement et l'Europe, comment on peut trouver une forme de soutenir la situation en Autriche pour les médias indépendants. Parce que c'est pas si évident. Parce qu'en fait, on est un peu une situation comme peut-être se trouve plutôt dehors de la communauté européenne, normalement. Peut-être en Yougoslavie presque, où on se trouve dans une situation en Croatie, c'est plus démocratique que chez nous bientôt.
Ouais, et avant de lancer le générique de fin, vous savez peut-être qu'en Flandre, il y a une certaine haïdérisation, c'est-à-dire que de plus en plus de gens commencent à voter, même sans raison, pour des partis d'extrême droite. Qu'est-ce qui change comme ça, globalement, en dehors des médias, dans la vie, dans la première chose qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui a changé comme ça en ce début d'année?
Chez
Oui,
nous ou
chez vous.
mais c'est
Juste pour
le
prévenir les gens ici au nord du pays.
c'est le c'est la tension, c'est le climat entre les gens, c'est ça carrément.
On le perçoit dans les rues.
Ouais,
D'accord. Ben écoutez, en tout cas, merci mille fois d'être passé dans cette émission et je
de
vous
rien.
souhaite une très bonne chance pour vos démarches auprès du Parlement et pour vos tentatives de coopération ici en Belgique. Voilà, c'est la fin d'Alter Echo numéro 3. Merci à Nathalie pour la technique et à mes invités d'être venus. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.